VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 6 février 2023. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sédoulia. Tout d'abord les titres. Au Burkina Faso, au moins 18 morts dans deux attaques dans le nord et l'est. Au Mali, la junte expulse le chef de la division des droits de l'homme de la mission de l'ONU. En RDC, tir contre un hélicoptère de l'ONU. Un mort et un blessé grave. Fin hier de la visite du pape François au Soudan du Sud, appel à la fin de la haine ethnique. Un séisme de magnitude 7,8 ébranle la Turquie et la Syrie. Plus de 200 morts. Relations gravement affectées et endommagées selon Pékin après l'incident du ballon chinois abattu par Washington. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, des attaques de groupes armés ont fait au moins 18 morts, civils et militaires, dans deux régions du pays, l'Est et le Sahel. Des attaques confirmées par des sources locales et sécuritaires. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
Une patrouille du détachement militaire de Diapaga a sauté samedi sur un engin explosif improvisé sur l'axe Diapaga-Partiaga, dans la province de la Tapoa, dans la région de l'Est. Selon la radio locale Radio Omega, cet incident à la mine a fait au moins 6 militaires tués. L'attaque a également fait plusieurs blessés, selon toujours le média. L'autre attaque dans le Sahel burkinabé a été perpétrée par des hommes armés samedi. Des sources locales et sécuritaires parlent de 12 civils tués. Selon un habitant d'Image à l'agence France Presse, des hommes armés ont attaqué samedi après-midi Bani, une localité située à environ 40 km de Dori, dans la région du Sahel. Au moins 12 personnes, des civils, ont été tuées. Un autre témoin, toujours selon l'agence, parle de 13 morts, pendant qu'une source sécuritaire a confirmé l'attaque en évoquant un lourd bilan sans donner de chiffres. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Mali, la junte au pouvoir a expulsé hier le chef de la division des droits de l'homme de la MINUSMA au moment où la mission de l'ONU évoque un possible retrait de ses troupes. Guillaume Ngefa Atondoko Andali, ressortissant de la République démocratique du Congo, a été déclaré persona non grata et devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures, a indiqué la junte qui l'accuse d'agissements déstabilisateurs et subversifs. Cette décision annoncée dans un communiqué intervient après un discours violemment critiqué par la junte, prononcé par une défenseure malienne des droits humains, qui a dénoncé il y a 10 jours à l'ONU la situation sécuritaire du pays et l'implication, selon elle, des nouveaux alliés russes de l'armée nationale dans de graves violations. En République démocratique du Congo, un casque bleu sud-africain a été tué et un autre grièvement blessé hier, lors d'une attaque contre leur hélicoptère dans l'est du pays. Selon la MONUSCO, l'appareil a essuyé des tirs au cours d'un vol à destination de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, où il a tout de même pu atterrir. Nathalie Barge.
L'armée sud-africaine a confirmé cette information dans la soirée, précisant que l'hélicoptère Onyx a essuyé des tirs et que le membre d'équipage blessé est parvenu à diriger l'appareil et à le faire atterrir. Dans un communiqué, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a condamné cette attaque, rappelant que les attaques contre les casques bleus peuvent constituer un crime de guerre. Le 29 mars dernier, 8 casques bleus avaient été tués dans le crash de leur appareil au-dessus d'une zone de combat. Ces tirs sur un hélicoptère de l'ONU surviennent au lendemain d'une rencontre à Bujumbura au Burundi entre plusieurs chefs d'État d'Afrique de l'Est, y compris les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Ce sommet s'est conclu par un appel au cessez-le-feu immédiat de toutes les parties et un retrait de tous les groupes armés, y compris les étrangers dans l'est de la RDC. Les chefs d'État ont demandé aux chefs des armées de se réunir d'ici une semaine pour fixer un calendrier de retrait et ont souligné la nécessité d'un dialogue renforcé entre toutes les parties.
Le pape François est rentré à Rome dimanche aux côtés des chefs des églises d'Angleterre et d'Écosse au terme de sa visite au Soudan du Sud après la RDC. Lionel Gahima.
Dimanche matin, pour le dernier rendez-vous de sa visite à Djouba, le pape a appelé à déposer les armes lors d'une messe en plein air devant 70 000 fidèles. La veille, il a appelé à rendre une vie digne aux déplacés internes du Soudan du Sud, qui en compte plus de 2 millions selon l'ONU. Dès son arrivée dans le plus jeune pays africain, le souverain pontife avait appelé à la paix et fustigé le fléau de la corruption. Dans l'avion le ramenant à Rome, le pape François a donné une conférence de presse aux côtés des chefs des églises d'Angleterre et d'Écosse avec lesquels il a effectué sa visite. De son côté, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, a dit qu'il devait y avoir un effort de lutte contre la corruption et la contrebande d'armes, ajoutant qu'il faudra continuer à travailler avec le Vatican et la Troïka, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège. Avant Djouba, le pape François s'était rendu à Kinshasa, où il a également dénoncé la violence des groupes armés dans l'est de la RDC. Le Saint-Père a confirmé qu'il se rendra à Marseille, en France, le 23 septembre, et a annoncé qu'il prévoit de se rendre en Mongolie dans la foulée. Il a par ailleurs évoqué un voyage en Inde l'année prochaine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le bilan des victimes en Syrie du séisme de magnitude 7,8 dont l'épicentre se situe en Turquie, dans le district de Palatchik, s'est élevé à au moins 245 morts et plus de 600 blessés, a annoncé lundi le ministère syrien de la Santé. Un précédent bilan faisait état de 111 morts dans les zones sous contrôle du régime syrien, alors que le nombre de victimes dans les régions tenues par les rebelles n'est pas encore connu. Le séisme a frappé lundi à l'aube le sud de la Turquie et la Syrie voisine, causant aussi de très importants dégâts, selon de premiers bilans. En Turquie même, l'agence gouvernementale de gestion des catastrophes avait, elle, fait état d'au moins 76 morts dans 7 différentes provinces. Selon l'USGS, l'Institut sismologique américain, le tremblement de terre a eu lieu à 4h17 locale, soit 1h17 GMT, à une profondeur d'environ 17,9 km. Ce séisme est l'un des plus importants en Turquie depuis celui du 1999, qui avait causé la mort de 17 000 personnes, dont un millier à Istanbul. Ici aux États-Unis, les républicains ont critiqué hier le président démocrate Joe Biden pour sa gestion de l'incident du ballon chinois abattu la veille par l'armée américaine après avoir survolé le pays pendant plusieurs jours. Michel Joseph.
Le ballon n'aurait jamais dû entrer aux États-Unis et terminer sa mission, d'après le républicain Mike Turner, président de la commission sur le renseignement de la Chambre des représentants. Pourquoi cela a-t-il pris aussi longtemps pour le révéler aux Américains? S'est demandé le sénateur républicain Marco Rubio. Le président Joe Biden a indiqué avoir donné l'ordre d'abattre dès que possible le ballon, entré une première fois dans l'espace aérien américain le 28 janvier au-dessus de l'Alaska, puis une seconde fois au niveau de l'Idaho, 3 jours après, le mardi 31 janvier. Le grand public n'a appris son existence que jeudi, lorsqu'il était au-dessus du Montana. Le Pentagone a expliqué avoir voulu attendre que le ballon survole la mer pour l'abattre, afin d'éviter tout dégât au sol lors de la retombée des débris. Washington assure qu'il s'agit d'un ballon espion qui a aussi provoqué l'annulation de dernière minute d'une visite en Chine du chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Pékin soutient qu'il s'agissait d'un aéronef civil, accusant les États-Unis d'avoir réagi de manière excessive en employant la force et a dit se réserver le droit de répliquer.
Le chanteur britannique Harry Styles a remporté dimanche le prix du meilleur album de l'année aux Grammy Awards, une victoire surprise face aux grandes favorites Beyoncé ou Adele. Beyoncé est devenue dimanche l'artiste la plus couronnée de tous les temps aux Grammy Awards. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Le projet régional d'intervention d'urgence pour l'énergie solaire est entré en phase opérationnelle pour accroître l'accès à l'électricité aux populations au Tchad, au Togo, au Libéria et en Sierra Leone. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 311 millions de dollars, l'initiative couvrira l'installation de 106 mégawatts d'énergie solaire photovoltaïque et l'expansion de 41 mégawatts de capacité hydroélectrique dans ces pays. En République du Congo, le gouvernement a mis fin aux subventions du carburant. Le litre de super est passé de 595 à 625 francs CFA et celui du gasoil de 475 à 500 francs CFA. Face à cette hausse de 5%, le gouvernement a prévu des mesures d'accompagnement, dont la prise en charge totale de la taxe de roulage pour les automobilistes, la prise en charge à 50% de la redevance des chauffeurs de taxi et une réduction sur la licence des transports publics. En République démocratique du Congo, l'entreprise minière MMG a livré 85 879 tonnes de cuivre et 60 394 tonnes de zinc au dernier trimestre 2022. Selon la direction de la compagnie, la production annuelle de Las Bambas était de 254 836 tonnes de cuivre l'an dernier, inférieure de 12% à celle de 2021 en raison des manifestations qui ont causé une fermeture opérationnelle de près de 2 mois. MMG affirme progresser dans le dialogue avec les communautés concernées.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec le CHAN, la Coupe d'Afrique des joueurs locaux et le Sénégal sacré en Algérie.
Oui, le Sénégal brise le rêve du pays hôte, l'Algérie, et remporte son premier CHAN au bout du suspense. Le score 0-0 et 5 tirs au but à 4 pour réaliser un doublé inédit CAN-CHAN en un an. Au stade Nelson Mandela dans la banlieue de Blida, Pap Thiaw a permis à son pays de rendre possible cet exploit.
On gagne le CHAN et les 6 ont fait notre CAN. Le football sénégalais est en train de triompher en Afrique. On disait que les Sénégalais, ils loupent beaucoup les pénaltys. Aujourd'hui, on fait 3 fois champion d'Afrique. Au Cameroun, on gagne au pénalty. Au beach soccer, on gagne au pénalty. Et ce soir, on gagne encore au pénalty. Et bravo à ces gamins.
Après une année 2022 marquée par l'élimination au premier tour de la CAN et la Coupe du Monde manquée à la dernière seconde, le foot algérien va devoir encore digérer une nouvelle déception. À noter que c'est Madagascar qui termine 3e après son succès étriqué face au Niger en match de classement.
Déception également chez le voisin marocain où le Wydad de Casablanca a été éliminé de sa Coupe du Monde des clubs.
Tout à fait. Le champion d'Afrique en titre pour son premier match dans un stade Moulay Abdallah de Rabat acquis à sa cause n'ira pas plus loin que les quarts de finale. Défait par les Saoudiens d'Al Hilal, là aussi au tir au but 5-3, 1-1 après les 120 minutes de jeu. Le club de Riyad aura souffert pour obtenir cette qualification, reconnaît l'attaquant malien Moussa Mariga.
C'est un match compliqué, un match très difficile parce que c'est une très très belle équipe de Wydad. Comme j'ai dit plusieurs fois, c'est une équipe qui m'a beaucoup surpris. Ce qui est bien, c'est qu'on a défendu en groupe. Toute l'équipe a défendu, on a été bien en place. On a bien tenu lors de cette première mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, il y a ce but qu'on se prend sur corner. Mais on baisse pas les bras, on réussit à rester dans ce match-là et on revient à la dernière minute. Je pense que c'est de la plus belle des manières. C'est qu'on a essayé de pousser et on est récompensé à la dernière minute. Et au final, on a réussi à se qualifier à la fin. Dieu merci.
En demi-finale, Al Hilal jouera les Brésiliens de Flamengo. L'Afrique aura quand même un représentant dans ce dernier carré. Les Égyptiens d'Al Ahly du Caire qui ont obtenu leur qualification aux dépens des Américains de Seattle, victoire 1-0. Ils feront face au Real Madrid au prochain tour.
Et à 3 jours de cette affiche, Élysée, le Real Madrid s'incline en championnat.
Exactement, Idrissa, battu 1-0 par l'équipe de Majorque pour le compte de la 20e journée de la Liga. Privé de nombreux cadres, le club merengue essuie son 3e revers de la saison et accuse désormais 8 points de retard sur le FC Barcelone qui a battu Séville sur la marque de 3-0.
Merci, Élysée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la tension est palpable depuis quelques jours dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, après la progression des rebelles du M23 dans le territoire de Masisi. Des manifestations spontanées ont éclaté à Goma vendredi pour dénoncer, selon les manifestants, l'inaction de la force régionale de l'EAC dans la crise dans l'est du pays. Reportage de Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma.
C'est depuis le 2 février que le village de Kiloli-Roué, situé à 23 km de la route Goma-Bukavu, a été conquise par les rebelles du M23. Cette rébellion dit vouloir mettre hors d'état de nuire l'armée congolaise, dont la présence dans les territoires de Rutshuru et Masisi serait une menace pour son organisation, a dit Willy Ngoma, porte-parole militaire du M23.
Nous ne voulons pas conquérir les espaces et les administrer, mais nous sommes obligés de poursuivre ceux qui viennent tuer nos familles, nos parents, nos frères et sœurs. C'est pour cela, en légitime défense, ils viennent nous attaquer, nous répliquons à leurs faits, nous les poursuivons pour nous défendre, les circons aussi défendre la population qui est sous notre zone.
L'arrivée à Sake de plusieurs familles de déplacés en provenance des Kiloli-Roué a sémé la panique au sein de la population locale. L'armée congolaise, à travers le lieutenant-colonel Guillaume Djike, porte-parole de la 34e région militaire, appelle les populations à la sérénité afin, dit-il, de ne pas renforcer l'ennemi.
Nos armées de la République démocratique du Congo sont bel et bien présentes et que cette population n'a rien à craindre. Surtout le commandant 3e zone de défense a demandé à cette population de ne pas se stigmatiser. C'est ça le mode opératoire de l'ennemi.
La tension a été vive dans les différents quartiers de la ville de Goma vendredi. Des jeunes activistes ont placé des barricades sur des routes pour bloquer passage aux véhicules de la force régionale de l'EAC, les accusant d'inaction. Bouniere Espérance, jeune activiste, lance ce message à l'intention des forces de l'EAC.
Nous demandons à l'EAC, le CIRGL, de cesser avec votre hypocrisie face aux Congolais en organisant des pourparlers pour distraire les Congolais pendant que l'ennemi M23 RDF que vous soutenez progresse avec l'agression.
Cette nouvelle tension est montée pendant que le pape François visitait la RDC, selon Thomas Dakamwiti, vice-président de la société civile. Les forces vives de la RDC, le souverain pontife a quitté le pays après avoir montré la voie qui mènerait à la solution durable à la crise sécuritaire.
Le message de réconciliation entre les Congolais, je pense que c'est le profond de tous les messages qui devaient être adressés. Si les Congolais pouvaient l'écouter, la paix reviendrait tout de suite et aujourd'hui même.
Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Cameroun, après 6 années d'activité, le projet LINECAM visant à sécuriser les droits fonciers est arrivé à son terme. 6 ans de plaidoyer sur les questions foncières, avec comme principale attente la promulgation d'une nouvelle loi. Mais l'objectif n'a jamais été atteint. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
En 2011, le gouvernement camerounais annonce son intention de procéder à la réforme foncière pour remplacer la loi vieille de 49 ans. Des acteurs non gouvernementaux ont été invités à faire des recommandations pour une nouvelle loi foncière. Ainsi a vu le jour le projet LINECAM. Le Centre pour l'environnement et le développement a été l'une des organisations de la société civile à avoir mené le plaidoyer sur cette réforme foncière. Docteur Samuel Ngifo, secrétaire général du CED.
Je peux dire qu'au cours des 5 dernières années, on n'a jamais autant discuté du foncier que par le passé, qu'on a pu voir se mettre en place des instances de dialogue. La semaine du foncier, par exemple, qui devient une institution. On a également eu le dialogue Parlement-Gouvernement sur le foncier. On a pu formuler un corps de propositions pour la réforme foncière qui a été présenté au gouvernement. Et nous pensons que ce corps de proposition-là pourra servir au moment de la réforme.
L'objectif global du projet LINECAM a été de contribuer à l'amélioration de la gouvernance foncière et des ressources naturelles, surtout en milieu rural, où les populations sont peu outillées. Alain Mwangedisake, chef traditionnel dans la région de littoral.
Les difficultés que nous avons rencontrées dans la question du foncier, que l'on a venu aider à résoudre, c'est dans la sécurisation de nos droits. Et l'ANCAM a mis à notre disposition des outils, justement pour pouvoir nous armer et mieux affronter ce challenge. Et je crois qu'à ce niveau, n'est-ce pas, beaucoup de chefs aujourd'hui se réjouissent d'avoir eu droit, d'avoir eu accès à la base de données de l'ANCAM. Mais cet effort doit être poursuivi, donc il faut arriver à vulgariser tous ces outils pour que les chefs soient encore mieux armés.
La principale attente du projet de sécurisation des droits fonciers, à savoir une nouvelle loi foncière, n'a pas été atteinte au cours des 6 dernières années de plaidoyer. Jean-Marie Vianney Bendegue, inspecteur général au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières.
Vous aurez une loi foncière bientôt. Désormais, elle sera unique. Mais il faut les textes d'application. Mais il faut surtout dans les textes la mise en œuvre. C'est un processus. Nous travaillons à l'amélioration de la gouvernance foncière. Nous ne travaillons pas à l'avènement d'une nouvelle loi. Tous ces processus nécessitent un accompagnement. Et je pense que le travail de l'ANCAM permet d'apporter notamment la touche des acteurs non étatiques à ce processus. Et c'est nécessaire, c'est bénéfique. Donc effectivement, oui, nous demandons une phase 2, un l'ANCAM 2.
Environ 80% des cas de litige devant les tribunaux camerounais portent sur le foncier. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Côte d'Ivoire, une épidémie a fait son apparition depuis début décembre 2022 dans le village de Kokahankro, situé à 7 km de Boaké. Depuis, la maladie, non encore identifiée par les autorités, a tué 20 personnes, 3 adultes et 17 enfants. Davantage de détails avec Aïcha Diarra.
On peut expliquer même là, c'est, en tout cas c'est un peu difficile pour moi. Ça tombe directement sur les enfants. Bon, l'enfant commence à crier. Dès qu'il crie, bon, on voit que l'enfant devient un coup dur. Bon, on a eu des adultes même qui sont décédés aussi.
André Kouakoujamak est un jeune homme de ce village qui a vu 20 de ses enfants être emportés par ce mal. Parmi les victimes, la fille de Ngué Sankwadio Pascal.
Au début, c'est comme Wanzo. C'est comme ça, il a fait. Et puis on a envoyé ça à l'hôpital. Comme on voit que ça va pas, on est venu au village. C'est ça, elle est décédée. Ça vaut pas un mois même. Ils n'ont rien dit même.
Sans réponse et sans explication scientifique claire, les commentaires vont bon train. Certains villageois n'hésitent pas à évoquer des esprits maléfiques ou fétichistes. Mais les recherches sur l'origine de cette maladie se poursuivent. Selon le docteur Benyé Bivro-Joseph, directeur général de l'Institut national d'hygiène publique de la Côte d'Ivoire.
Il y a 26 personnes qui sont hospitalisées, mais après le tout, on se rend compte que la situation est stable pour l'instant. Alors, au niveau de la communauté villageoise, monsieur le ministre a donné le message fort de c'est qu'ils doivent collaborer avec tous ces collaborateurs qui sont sur le terrain pour investiguer plus profondément. Dans les plantations, la population a l'habitude d'utiliser les pesticides. Est-ce que les pesticides peuvent être à l'origine de ce mal-là? Nous sommes en train de l'explorer. L'eau de consommation peut être à l'origine. Donc l'eau a été prélevée aujourd'hui, mais nous sommes aussi en train d'explorer aussi une source environnementale.
Au départ, les soupçons se portaient sur des doses de vitamines que la plupart des enfants décédés avaient reçues. Plus tard, avec le nombre d'enfants décédés sans avoir été vaccinés, ces tests semblent avoir été écartés. Aïcha Diarra, à Boaké, pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou a refermé ses portes hier. Une vingtaine de pays ont pris part cette année au CIAO, malgré le contexte sécuritaire difficile. Durant la semaine, des centaines de milliers de visiteurs se sont rendus sur le site du CIAO. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Dans l'un des pavillons du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, des produits artisanaux sont exposés dans plusieurs dizaines de stands. Nous sommes au plus grand salon de l'artisanat africain au monde. Karidia Kone, exposante burkinabé.
On a fait de bonnes affaires.
parce que les affaires se voient. Il faut avoir une carte de visite, il faut avoir un dépliant. Je crois que c'est déjà nécessaire. Et j'en ai dit encore, c'est grâce à Siao que je suis en train de parler directement comme ça.
Modibo Sidibé, exposant malien.
Siao, c'est pas venu vendre seulement pour avoir de l'argent. Siao, c'est venu se faire connaître son produit. Et la valeur de ton produit. Qu'est-ce que ton produit peut aller? C'est ça, Siao également.
Le salon qui a été annulé en 2020 pour cause de coronavirus et par la suite reporté en octobre 2022 a finalement pu se tenir en février 2023. Les organisateurs de la biennale se réjouissent. Dramantou, directeur général du CIAO.
Le Burkina Faso reste un pays fréquentable, capable d'organiser de grands événements pour dire à ses amis et ceux qui le soutiennent pour son développement intégré que nous sommes résilients. Nous avons pu mobiliser autour de 26 pays sur une estimation de 25 qui ont effectivement répondu présents et qui sont venus à ce salon. Je vous disais tantôt, pour les acheteurs professionnels, nous n'avons pas atteint l'objectif de 50 qu'on voudrait avoir, mais nous avons pu avoir la chance d'enregistrer 25, 50% des réalisations. Sur les 700 stands qu'on avait comme objectif à écouler, au niveau des stands dans les pavillons, nous avons pu écouler autour de 600, ça doit être autour de 650 par là.
Le CIAO 2023 a vu plusieurs centaines de milliers de visiteurs durant la semaine. Les organisateurs donnent rendez-vous du 25 octobre au 3 février 2024 pour la 17e édition. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean.
Drop the attic. Give me love. Give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, give me Miu Miu like Rihanna.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloulia, à la mise en onde de Michel Joseph. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.